السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج ان صحابی کا پہلے ذکر ہوگا.
Le compagnon que j'évoquerai aujourd'hui se nomme Auf bin Harith bin Rifa al-Ansari. Selon les récits, il se nommerait aussi Auf bin Afra, Auf bin Harith. Et aussi Aus bin Afra. Sa mère se nommait Afra. Ses compagnons appartenaient à la tribu Banu Najjar des Ansar. Mu'az et Mu'awidh étaient ses frères. Auf était un de ses six premiers Ansar s'étant rendu à la Mecque pour embrasser l'islam. Il était aussi présent lors de la Bayra d'Aqaba. Auf avait brisé les idoles des Banu Malik bin Najjar en compagnie de Sa'd bin Darara et d'Ammara bin Hazm. Lors de la bataille de Badr, Auf bin Afra avait demandé au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quelle est l'action qu'Allah apprécie le plus de la part de son serviteur? Le saint prophète paix soit sur lui a répondu, il apprécie que la main de son serviteur soit occupée à combattre et qu'il se batte sans armure et sans peur. C'est-à-dire que l'on doit être sans peur lorsque l'on se trouve sur le champ de bataille. Sur ce, Auf bin Afra a enlevé son armure et il s'est avancé pour se battre jusqu'à tomber un martyr. Auf bin Harith et son frère Mu'awidh avaient tué Abu Jahl lors de la bataille de Badr. Auf bin Afra est mentionné dans les hadiths parmi les noms de ceux qui avaient tué Abu Jahl lors de la bataille de Badr. J'en avais fait mention dans le passé. Selon le Sunan d'Abi Daoud, ce compagnon se nommait Auf bin Harith. Il était connu par ces deux noms. En tout cas, il était parmi ceux qui avaient tué Abu Jahl et il est lui-même tombé à martyr à Badr. Le prochain compagnon que j'évoquerai se nomme Abu Ayyub al-Ansari. Son nom d'origine était Khalid et son père se nommait Zayd bin Kulaib. Il était davantage connu par son nom d'origine et son nom d'emprunt. Abu Ayyub al-Ansari appartenait à la branche Banu Najjar des Ansar. Abu Ayyub al-Ansari avait accompagné 70 Ansar lors de la Bayra d'Aqaba à la Mecque. Sa mère se nommait Hind bint Saïd. Selon un autre récit, elle se nommerait Zahra bint Saad. L'épouse d'Abu Ayyub, Al-Ansari, se nommait Umm Hassan bint Zayd. De leur union est né un fils nommé Abdurrahman. Le saint prophète Mohammed Bissos, lui, avait établi un lien de fraternité entre Abu Ayyub al-Ansari et Moussa bin Umair. Quand le saint prophète Bissos, lui, est venu à Médine, eh bien, il avait logé chez Abu Ayyub al-Ansari jusqu'à la construction de ses maisons et de sa mosquée. Dans son ouvrage « Siratrat Munabiyin », Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saib a évoqué le sujet de l'arrivée du saint prophète Mohammed Bissos, lui, à Médine. Il déclare que lorsque le saint prophète Bissos, lui, est arrivé dans les quartiers des Banu Najjar, la question s'est posée de nouveau à savoir chez qui il allait résider. Chaque individu de la tribu souhaitait que le saint prophète Bissos, lui, réside chez lui. Dans la ferveur de leur amour, certains prenaient les rênes du chameau du Saint-Prophète. Mais le Saint-Prophète, paix soit sur lui, disait « Laissez ma chamelle, elle marche sous le commandement de Dieu. » Et le Saint-Prophète lui-même avait laissé les rênes de l'animal. La chamelle s'avança gracieusement et s'assit lorsqu'elle a atteint l'endroit où plus tard la mosquée Nabawi et les quartiers d'habitation du Saint-Prophète, paix soit sur lui, seront construits. Ce terrain appartenait à deux jeunes de Médine et ce terrain n'était pas cultivé. Mais la chamelle s'est levée et a commencé à avancer, mais par la suite, elle est retournée sur le même lieu. Et c'est ainsi. Le Saint-Prophète a déclaré, « Il semble que la volonté d'Allah désire que ce soit notre lieu de résidence. » Par la suite, le Saint-Prophète, paix soit sur lui, a supplié Dieu. Il est descendu de sa chamelle. Et il a demandé quelle est la maison la plus proche d'ici de parmi les musulmans. Abu Ayyub Ansari s'est précipité et il a déclaré au messager d'Allah, « Il s'agit de la mienne. Voici ma porte. Et daignez entrer chez moi. » Le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré, « Eh bien, rentre chez toi et prépare un logement pour moi. » Abu Ayyub Ansari est parti immédiatement préparer sa maison et il est retourné et il est entré chez lui avec le saint prophète, paix soit sur lui. Il s'agissait d'une maison à étage et Abu Ayyub souhaitait que le saint prophète, paix soit sur lui, réside à l'étage supérieur. Cependant, pour le confort de ses visiteurs, le saint prophète, paix soit sur lui, préférait résider au rez-de-chaussée. À la tombée de la nuit, Abu Ayyub et sa femme ne pouvaient pas dormir toute la nuit en pensant que le saint prophète, paix soit sur lui, était en dessous d'eux et qu'ils étaient au-dessus de lui. En sus de cela, durant la nuit, un seau d'eau s'est brisé sur le toit et Abu Ayyub a placé rapidement sa couette sur l'eau pour la sécher de peur qu'une seule goutte d'eau ne s'infiltre jusqu'au rez-de-chaussée. Dans la matinée, il s'est présenté au saint prophète, paix soit sur lui, et lui a demandé de loger à l'étage supérieur. Au début, le saint prophète, paix soit sur lui, a hésité, mais suite à l'insistance d'Abu Ayyub, il a accepté sa requête. Ainsi donc, le saint prophète, paix soit sur lui, a logé dans cette maison pendant 7 mois. Selon un récit d'Ibn Israq, il a résidé dans cette maison jusqu'au mois de Safar en l'an 2 de l'Hégire. Le saint prophète, paix soit sur lui, a résidé dans cette maison jusqu'à la construction de la mosquée Nabawi et des maisons des alentours. Abu Ayyub lui présentait des plats et il mangeait ce qu'il en restait. En raison de son amour et de sa sincérité à l'égard du saint prophète, paix soit sur lui, Abu Ayyub plaçait ses doigts aux mêmes endroits que le saint prophète, paix soit sur lui, avait mangé. Et les autres compagnons envoyaient aussi des repas au saint prophète, paix soit sur lui. Hazrat Muslim Maoud a également évoqué ce récit. Certaines phrases et certains points sont nouveaux et c'est pour cette raison que je vous présente ces propos. En général, il a mentionné les mêmes faits, mais le Muslim Maoud l'a fait selon son style particulier. Il déclare, « Quand le Saint-Prophète, paix soit sur lui, est arrivé à Médine, eh bien, chacun souhaitait que le Saint-Prophète logeât chez lui. Lorsque son chameau traversait une ruelle, les familles s'alignaient pour le recevoir. Les gens disaient, « Voici nos maisons, ô envoyé d'Allah, voici nos biens, voici nos vies. Nous sommes prêts à vous recevoir, nous sommes prêts à offrir notre protection. Ô prophète d'Allah, venez vivre avec nous. D'autres, allant plus loin, s'avançaient et ils saisissaient les rênes de sa monture. Et il insistait que le Saint-Prophète devait descendre chez eux et venir résider chez eux. Mais le Saint-Prophète, paix soit sur lui, refusait en disant, « Laissez ma chamelle, elle marche sous le commandement de Dieu aujourd'hui. Elle s'arrêtera là où Dieu souhaite qu'elle s'arrête. » À la fin, la chamelle s'est arrêtée sur un terrain appartenant à des orphelins de la tribu des Banu Najjar. Le Saint-Prophète, paix soit sur lui, a déclaré, « Il semble que Dieu souhaite que nous résidions ici. » Ensuite, il a demandé à qui appartenait ce terrain. Ce terrain appartenait à quelques orphelins. Leur tuteur s'est avancé, il a déclaré, « Ô prophète d'Allah, ce terrain appartient à tel ou tel orphelin et nous souhaitons vous l'offrir. » Le saint prophète, paix soit lui, a répondu qu'il ne va pas accepter ce terrain gratuitement. Par la suite, le prix a été fixé et le saint prophète, paix soit lui, a choisi ce terrain pour bâtir sa mosquée et ses résidences. Ensuite, le saint prophète a demandé qui vivait le plus près du terrain. Abu Ayyub Ansari s'est avancé, il a répondu, « Ma maison est la plus proche d'ici, et nous sommes prêts à vous servir, ô envoyé d'Allah. » Le Saint-Prophète lui a demandé de préparer une chambre pour lui. La maison d'Abu Ayyub avait un étage, et il a offert le Saint-Prophète, paix soit sur lui, l'étage supérieur. Mais le Saint-Prophète, paix soit sur lui, préférait le rez-de-chaussée pour faciliter les visites. Hazrat Muslim Maoud explique que l'on voit ici un autre exemple du grand amour qu'éprouvaient les Ansar à l'égard du Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui. Abu Ayyub avait accepté de laisser au Saint-Prophète, paix soit sur lui, le rez-de-chaussée, mais il a refusé d'aller dormir à l'étage au-dessus du Saint-Prophète, paix soit sur lui, car selon lui et sa femme, c'était discourtois. C'était là une autre expression d'amour à l'égard du Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui. Une nuit, un pichet d'eau est tombé sur le plancher et l'eau s'est répandue. Abu Ayyub craignait que l'eau ne transperce le plafond et ne tombe dans la chambre occupée par le Saint-Prophète, paix soit sur lui. Et il a pris un vêtement pour essuyer l'eau. Le matin, il s'est présenté au Saint-Prophète, paix soit sur lui, et lui a raconté toute l'histoire. Sur ce, le Saint-Prophète, paix soit sur lui, a accepté de résider à l'étage supérieur. Abu Ayyub préparait les repas pour le Saint-Prophète, paix soit sur lui, et le lui envoyait. Le Saint-Prophète en consommait et il envoyait le reste à Abu Ayyub. Quelques jours après, les autres Ansar ont voulu en faire de même. Et c'est ainsi que les musulmans de Médine offraient à tour de rôle un repas au Saint-Prophète, paix soit sur lui, jusqu'à ce que le Saint-Prophète, paix soit sur lui, se soit établi dans sa résidence. Le récit suivant est tiré d'un hadith. Le récit précédent était tiré de l'ouvrage « Une introduction à l'étude du Saint-Coran » du Muslim Maoud. Abu Ayyub Ansari relate que le Saint-Prophète, paix soit sur lui, a élu résidence chez lui. Le Saint-Prophète, paix soit sur lui, a occupé le rez-de-chaussée, Abu Ayyub a occupé l'étage supérieur. Le rapporteur déclare que nuit, Abu Ayyub s'est réveillé et il a déclaré « Nous marchons sur la tête du Saint-Prophète, paix soit sur lui. » Et ils se sont mis dans un coin pour passer la nuit. Ensuite, il en a parlé au Saint-Prophète, paix soit sur lui. Celui-ci a déclaré qu'il n'y avait plus de facilité pour lui au rez-de-chaussée. Mais Abu Ayyub a déclaré « Je ne peux loger sur le toit qui est au-dessus de vous. » Sur ce, le Saint-Prophète a élu domicile à l'étage supérieur et Abu Ayyub a occupé le rez-de-chaussée. Abu Ayyub préparait des repas pour le prophète d'Allah et celui-ci retournait le reste. Et Abu Ayyub demandait à celui qui avait apporté le repas de lui indiquer l'endroit où le Saint-Prophète avait placé ses doigts. Et Abu Ayyub plaçait ses doigts au même endroit, c'est-à-dire qu'il commençait à manger de l'endroit d'où avait mangé le Saint-Prophète, paix soit sur lui. Un jour, il avait préparé un repas contenant de l'ail. Et quand on lui a retourné le repas, il a demandé où le Saint-Prophète, paix soit sur lui, avait-il mangé. Mais on lui a dit que le Saint-Prophète n'avait rien mangé de ce repas. Et il était tout inquiet. Il est monté à l'étage pour lui demander si l'ail était interdit. L'envoyé d'Allah a déclaré non. Mais moi, je n'aime pas l'ail. Sur ce, Abu Ayyub a déclaré, en ce cas, je n'apprécie plus ce que vous n'aimez pas. Ou il aurait dit que je n'ai pas apprécié non plus ce que vous n'avez pas aimé. Selon le recueil de Muslim, le rapporteur déclare que le saint prophète, paix soit sur lui, recevait des anges. Et c'est pour cette raison que l'envoyé d'Allah n'aimait pas les aliments exhalant une forte odeur. Mais en tout cas, l'ail n'est pas interdit. Selon le recueil de Muslim, Abu Ayyub Ansari relate, lorsqu'on présentait le repas au saint prophète, paix soit sur lui, il en consommait et il m'envoyait le reste. Un jour, il m'avait envoyé le repas sans rien consommer, car ce repas contenait de l'ail. Je lui demandais si l'ail était interdit à la consommation. Le saint prophète, paix soit sur lui, a répondu non, mais je n'aime pas l'odeur de l'ail. Abu Ayyub a déclaré, en ce cas, je n'apprécie pas non plus ce que vous n'aimez pas. Cet incident est relaté dans un autre récit, récit tiré du recueil de Musnad Ahmad bin Hanbal. Abu Ayyub Ansari relate, l'envoyé d'Allah a logé chez nous au rez-de-chaussée de notre maison. J'étais à l'étage supérieur. Une fois, de l'eau s'est répandue à l'étage. Ma femme et moi, nous avons tenté de l'essuyer avec un drap de peur que l'eau ne s'infiltre dans le parquet pour tomber sur le saint prophète, paix soit sur lui. Tout inquiet, je me suis présenté au saint prophète, paix soit sur lui, et je lui ai dit, « Il n'est pas approprié pour nous de loger au-dessus de vous. » Veuillez prendre place à l'étage supérieur. Sur les directives de l'envoyé d'Allah, j'ai apporté ses effets à l'étage supérieur, dit Abu Ayyub. D'ailleurs, il n'avait pas grand-chose comme effet. Ensuite, je lui ai dit, ô envoyé d'Allah, quand vous me renvoyez le repas, je place mes doigts là où je vois les traces de vos doigts. Mais je n'ai pas vu les traces de vos doigts dans le repas d'aujourd'hui. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a répondu, « C'est vrai, en fait, le repas d'aujourd'hui contenait de l'oignon. » Ce récit évoque ici de l'oignon à la place de l'ail. Et le saint prophète a déclaré que je n'ai pas voulu en consommer en raison de l'ange qui me rend visite, mais vous pouvez en consommer. Abu Ayyub Ansari avait participé aux batailles de Badr, d'Uhud et aux autres zouat en compagnie du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Abu Ayyub relate, « Le jour de la bataille de Badr, nous nous sommes mis en rang et certains des nôtres avaient dépassé les rangs. L'envoyé d'Allah a déclaré en les voyant, « avec moi, c'est-à-dire restez derrière moi et ne me dépassez pas. » On trouve aussi mention de la nuit de noces de Safiya. J'en avais fait mention brièvement dans le passé, mais j'en fais mention de nouveau ici. Lors de la nuit de noces du saint prophète Mohammed paix soit sur lui et de Safiya, eh bien, Abu Ayyub Ansari montait la garde, l'épée au clair à l'extérieur de la tente de l'envoyé d'Allah. Et il en faisait le tour. Le lendemain matin, le saint prophète, paix soit sur lui, a vu Abu Ayyub Ansari à l'extérieur de la tente. Et il lui a demandé la raison de sa présence. Abu Ayyub a répondu, « Ô envoyé d'Allah, je m'inquiétais de votre personne à cause de cette femme. Son père, son mari et les membres de sa tribu ont été tués. Et elle vient à peine de répudier le kufr, l'incroyance. C'est pour cette raison que j'ai assuré votre sécurité durant toute la nuit. » Le saint prophète a prié en ces termes en faveur d'Abu Ayyub al-Ansari. « Ô Allah, protège à tout jamais Abu Ayyub, tout comme il a assuré ma protection durant la nuit tout entière. » L'imam Suhaili relate que, en raison de cette prière du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, Allah a protégé Abu Ayyub Ansari, tant et si bien que les Romains assuraient la sécurité de sa tombe et ils imploraient Dieu de leur envoyer la pluie par son entremise. et sur ce, Dieu leur envoyait la pluie. Mahmoud déclare qu'il avait entendu le récit suivant d'Ibn bin Malik, qui était de ceux qui avaient participé à la bataille de Badr en compagnie du saint prophète Mohammed, que ce soit lui. Ibn bin Malik relatait: « Je fis ici comme imam dans ma tribu des Banu Salim. Il y avait un ruisseau entre ma maison et les membres de ma tribu. Et quand il pleuvait, il m'était difficile de traverser le ruisseau pour me rendre dans la mosquée des Banu Salim. C'est pour cette raison que je me suis présenté au saint prophète Mohammed, que ce soit lui, et je lui ai dit: « Ô envoyé d'Allah, ma vue est en train de faiblir. » Et le ruisseau qui se trouve entre moi et ma tribu s'inonde lorsqu'il pleut, et il m'est difficile de traverser ce ruisseau. Je souhaite que vous veniez chez moi et que vous priez dans un coin de ma maison, afin que je consacre ce lieu uniquement à la salah. Le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré: « Je viendrai chez toi certainement. » Le lendemain matin, l'envoyé d'Allah et Abu Bakr sont venus chez moi. Le saint prophète, paix soit sur lui, a demandé la permission d'entrer. Je lui ai permis d'entrer et il ne s'est pas assis et il m'a demandé: « Où souhaites-tu que j'accomplisse la salah ?» Ibn bin Malik a indiqué l'endroit qu'il avait choisi à cet effet. Et le saint prophète, Mohammed, paix soit sur lui, s'est mis debout et il a récité Allah Akbar. Ibn déclare que nous avons formé les rangs derrière le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Il a accompli deux rakats de prière. Ensuite, il a fait ses salutations et nous en avons fait de même. J'ai retenu le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, pour lui offrir du khazira. Le khazira, qui est un plat composé de viande et de blé. C'était un repas que nous avions préparé tout spécialement pour lui. Les musulmans du quartier ont entendu que l'envoyé d'Allah était chez moi et certains d'entre eux sont venus à grands pas chez moi, tant et si bien qu'il y avait plein de monde chez moi. L'un d'entre eux a demandé: « Où se trouve Malik ? Je ne le vois pas. » Un autre a répliqué: « C'est un hypocrite. » On a demandé à propos d'un autre compagnon et on a dit qu'il n'était pas présent. Et un autre a répliqué qu'il est un hypocrite, il n'aime pas Allah et son prophète, c'est pour cette raison qu'il n'est pas venu. Le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré: « Ne dites pas cela, n'êtes-vous pas témoin qu'il a affirmé qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah ?» Or sa déclaration, il ne cherche que le plaisir d'Allah. L'accusateur a répondu: « Allah et son prophète savent le mieux. » Mais nous voyons qu'ils ne se soucient que des hypocrites et qu'ils ne souhaitent que leur bien. Le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré: « Allah interdira le feu à celui qui affirme la ilaha illallah à condition qu'il cherche le plaisir d'Allah par cette déclaration. » Mahmoud bin Rabi déclare: « J'ai évoqué ce récit à quelques personnes parmi lesquelles se trouvait Abu Ayyub al-Ansari, le compagnon du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. » Il avait participé à la bataille contre les Romains et y avait rendu l'âme. Yazid bin Mawiyah était son chef lors de cette bataille. Abu Ayyub al-Ansari a rejeté sa déclaration en disant que je ne crois pas que le saint prophète aurait dit quelque chose pareil, à savoir que le feu de l'enfer est interdit à celui qui se contente d'annoncer « La ilaha illallah ». Mahmoud bin Arabi déclare que ceci m'a fort troublé et j'en étais tout inquiet. Et j'ai fait un serment à Allah que s'il me préserve en vie et que si je retourne sain et sauf de cette bataille, eh bien je questionnerai Ibn bin Malik à ce sujet, à condition qu'il est toujours vivant et qu'il se rendait toujours à la mosquée de son clan. Je suis retourné, j'ai porté l'ihram du Hajj et de l'Umra. Ensuite, je suis parti à Médine et je suis parti dans le quartier des Banu Salim. Là-bas, j'ai vu Ibn bin Malik, qui était tout vieux et qui perdait la vue. Il dirigeait les siens dans la prière. Quand il a terminé la salat et qu'il a fait ses salutations, je l'ai salué et je l'ai informé de mon identité. Je lui ai demandé à propos du récit et il l'a relaté mot à mot comme je l'avais entendu la toute première fois. « Il m'a dit, j'ai entendu le saint prophète, paix soit sur lui, affirmer que le feu est interdit à celui qui récite « La ilaha illallah ». Mais Abu Ayyub n'acceptait pas ce point de vue. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a commenté à ce propos. Et il a cité ce hadith « Man qala la ilaha illallah yabtari bithalika wajhillah ». Je présente le hadith dans son intégralité et ceci va dissiper tout malentendu. Mahmoud bin Arabi déclare, « J'ai entendu Idban bin Malik déclarer que le saint prophète, paix soit sur lui, disait, « Dieu a interdit le feu de l'enfer à celui qui, sincèrement et avec de bonnes intentions, récite la déclaration « La ilaha illallah » afin de mériter le plaisir de Dieu. » Mahmoud bin Arabi ajoute, « Mais quand j'ai cité ce récit dans une congrégation dans laquelle se trouvait Abu Ayyub al-Ansari, le compagnon du saint prophète, il a rejeté ce récit en disant par Allah, « Je ne crois pas que le saint prophète, paix soit lui, ait pu énoncer pareil propos. » En se basant sur son propre opinion, Abu Ayyub al-Ansari a rejeté un hadith dont la chaîne de narrateur était authentique selon les principes de la narration. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib ajoute, il se peut que la déduction d'Abu Ayyub al-Ansari soit erronée, mais cela prouve que les compagnons n'acceptaient pas tel quel tous les hadiths, mais ils méditaient à leurs propos et ils menaient leurs recherches. Ce hadith prouve que les compagnons n'acceptaient pas tel quel tous les propos attribués au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Ils les acceptaient après avoir mené leurs recherches en respectant les principes de la diraya et les principes de la riwaya. Sayyid Waliullah Shah Saheb a commenté sur ce hadith d'Al-Bukhari en ces termes. Abu Ayyub Ansari a rejeté ce récit de Mahmoud bin Rabi. Certains pensent que son rejet découlait du fait que se contenter de réciter la ilaha illallah uniquement ne protège pas du feu de l'enfer tant que sa déclaration n'est pas accompagnée des bonnes œuvres. Ceci est une croyance avérée de l'islam. Mais Shah Waliullah Saheb ajoute que la clause « en recherchant le plaisir d'Allah » décrit davantage ce type de tawhid qu'on a énoncé. C'est-à-dire que le feu de l'enfer sera interdit à celui qui récite la ilaha illallah pour mériter le plaisir de Dieu. Par la suite, Mahmoud bin Rabi a mené de nouveau une enquête, craignant qu'il n'avait pas saisi certains points de ce hadith. Et son enquête a révélé que ses propos du récit étaient exacts. Ensuite, Shah Waliullah Saheb ajoute, il ne sied pas de commenter en public sur la foi ou sur l'hypocrisie d'un tel. Dire qu'un tel est un hypocrite ou que sa foi est faible est un acte condamnable, car le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, n'a pas apprécié le fait de critiquer Ibn Dusham en public, car pareille critique favorise les troubles au lieu de la réforme. Selon un récit, Abdullah bin Abbas et Miswar bin Mahrama se trouvaient à Abwa et il y a eu un différend entre eux au sujet du ghusl ou du bain rituel. Selon Abdullah bin Abbas, le pèlerin portant l'ihram peut se laver la tête. Miswar, quant à lui, insistait du contraire. Le rapporteur déclare, « Abdullah bin Abbas m'a envoyé chez Abu Ayyub Ansari. Il se baignit entre deux bouts de bois recouverts d'un tissu qui lui servait d'écran. Je lui ai salué et il m'a demandé qui j'étais. Abdullah bin Hunayn, ai-je répondu, Abdullah bin Abbas m'a envoyé chez vous afin de vous demander sur la manière dont le saint prophète, paix soit sur lui, se lavait la tête lorsqu'il était dans l'état d'Ihram. Abu Ayyub a baissé le tissu qui lui servait d'écran de ses mains et je pouvais voir sa tête. Ensuite, il a dit à celui qui lui fournissait de l'eau de placer de l'eau sur sa tête. Et Abu Ayyub a ensuite passé ses mains de la partie avant de sa tête jusqu'à la partie arrière de sa tête. Et il a déclaré que c'est ainsi que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, se lavait la tête lorsqu'il était dans l'état d'Ihram, c'est-à-dire en passant sa main de l'avant de sa tête vers l'arrière. Saïd bin Musayyib relate ceci. Une fois, Abu Ayyub a vu une brindille dans la barbe du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Et il a enlevé cette brindille et il a montré au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Sur ce, le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré : Oh Allah, éloigne d'Abu Ayyub la chose qu'il n'aime pas. Selon un autre récit, le saint prophète, paix soit sur lui, aurait déclaré : Oh Abu Ayyub, je prie que tu ne souffres jamais. Abu Ayyub était à l'avant de l'armée d'Ali lors des batailles d'Al-Jamal, de Siffin et de Nahalwan. Ali avait une grande confiance en Abu Ayyub al-Ansari, comme le démontre ce qui suit. Quand Ali a choisi Koufa comme sa capitale, eh bien, il a élu domicile à Koufa et il a nommé Abu Ayyub le gouverneur de Médine. Et il a occupé ce poste jusqu'en l'an 40 de l'Hégire, jusqu'à ce que l'armée syrienne de l'émir Mouawiyah attaque Médine sous la direction de Yusra bin Abu Arta. Sur ce, Abu Ayyub a quitté Médine pour se rendre à Koufa auprès d'Ali. Après le décès du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, les compagnons recevaient une allocation mensuelle de la part du califat. L'allocation d'Abu Ayyub était de 4 000 dans un premier temps et au cours de son califat, Ali l'a augmenté à 20 000. 8 esclaves étaient assignés à récolter ces terres dans un premier temps et Ali l'a augmenté jusqu'à 40. Habib bin Abu Thabit a relaté que Abu Ayyub s'est rendu chez l'amir Mouawiyah et il s'est plaint de ses dettes. Et il n'a pas vu chez l'amir Mouawiyah les qualités qui lui plaisaient, mais celles qui lui déplaisaient. Sur ce, Abu Ayyub al-Ansari a déclaré que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui leur avait dit ceci. C'est-à-dire qu'il a vu chez l'émir Mouawiyah des choses qui lui déplaisaient, pas ce qui lui plaisait. Ainsi donc, Abu Ayyub a déclaré que j'ai entendu le saint prophète dire que par la suite, vous verrez certainement des traitements préférentiels, c'est-à-dire que vos priorités vont changer. L'émir Mouawiyah a demandé, « Eh bien, qu'est-ce que le saint prophète vous a-t-il conseillé lorsqu'il vous a dit ceci ?» Abu Ayyub a déclaré, en pareil cas, il nous demandait d'être patients. C'est-à-dire que lorsque les priorités vont changer et qu'on n'exauce pas vos souhaits, vous allez devoir faire montre de patience. Sur ce, l'émir Mouawiyah a déclaré, « Eh bien, vous devez être patient, tout comme l'a déclaré le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. » Abu Ayyub a déclaré, « Par Allah, je ne te demanderai jamais rien. » Sur ce, Abu Ayyub s'est rendu à Bassora et il a logé chez Ibn Abbas. Celui-ci a vidé sa maison pour lui et lui a dit, « Je vous traiterai certainement de la même manière que vous aviez traité le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. » C'est-à-dire qu'il avait fait montre du même sens de l'hospitalité qu'avait démontré Abu Ayyub à l'égard du saint prophète. Ibn Abbas a demandé aux membres de sa famille de vider la maison et ils ont obtempéré. Par la suite, il a dit à Abu Ayyub, « Tout ce qui se trouve dans la maison vous appartient. » Et il lui a offert 40 000 dirhams et 20 esclaves. Il avait fait des arrangements pour sa personne. Non seulement il avait offert sa maison à Abu Ayyub, mais il lui avait aussi offert 40 000 dirhams et 20 esclaves. Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu a commenté sur le verset suivant « وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin. Il déclare que les gens entretiennent beaucoup de malentendus à propos de ce verset wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin. Il déclare que les gens entretiennent beaucoup de malentendus à propos de ce verset dès qu'ils font face à des difficultés dans la voie d'Allah. Il déclare cela revient à se ruiner de ses propres mains, étant donné qu'Allah, le Tout-Puissant, a déclaré « Ne vous jetez pas de vos propres mains dans la ruine ». Eh bien, comment pouvons-nous consentir à pareil sacrifice ? Le Muslim Aoud déclare que ce verset ne signifie pas que chaque fois que la vie d'un musulman est menacée, il doit s'enfuir et faire preuve de lâcheté. En réalité, ce verset affirme qu'on doit tout dépenser à foison pour cette cause, pour la cause de Dieu, lorsque la guerre éclate contre l'ennemi. Ne pas dépenser sa richesse en pareil cas revient à se ruiner de ses propres mains. Selon un récit, Abu Ayyub al-Ansari a dit, quand il était parti à la conquête de Constantinople, ce verset a été révélé à notre sujet des Ansars. Il a déclaré, naguère, nous dépensions dans la voie d'Allah, mais par la suite, lorsqu'Allah a établi sa religion et l'a honorée, en accordant la victoire aux musulmans, eh bien, nous nous sommes dit, il serait préférable que nous sauvegardions une partie de nos richesses et que nous l'amassions. Sur ce verset a été révélé. Ce verset qui dit qu'il ne faut pas se retenir de dépenser dans la voie d'Allah. Car si l'on agit de la sorte, cela reviendrait à se détruire de ses propres mains. Par conséquent, vous ne devez pas accumuler vos richesses, mais vous devez la dépenser dans la voie d'Allah. Sinon, vos vies iront en vain et l'ennemi vous vaincra et vous serez complètement détruits. Après le califat d'Ali, le règne de l'émir Mouawiyah a débuté. Uqba bin Amir Juhni a été nommé gouverneur de l'Égypte par l'émir Mouawiyah. Au cours du règne d'Uqba, en tant que gouverneur, Abu Ayyub s'est rendu en Égypte à deux reprises. La première fois, c'était dans le but d'enregistrer un hadith, car il avait appris qu'Uqba avait l'habitude de raconter un hadith particulier. Abu Ayyub a enduré les difficultés du voyage durant sa vieillesse pour ce hadith. Et la deuxième fois, il s'est rendu en Égypte avec l'intention de prendre part à la bataille contre les Byzantins. Lorsque Marwan était gouverneur de Médine, il a vu une fois quelqu'un qui avait placé son visage sur la tombe du saint prophète, paix soit sur lui. Sur ce, Marwan lui a dit, « Savez-vous ce que vous faites ? Se prosterner devant cette tombe équivaut au shirk. » Quand Marwan s'est rapproché, il a constaté qu'il s'agissait d'Abu Ayyub al-Ansari, qui lui a répondu, « Je suis venu visiter le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, je ne suis pas venu visiter ses pierres. » Abu Abdurrahman Hubli raconte ceci. Il disait, nous voyageons par mer. Abdullah bin Qais Fazari était notre émir et Abu Ayyub al-Ansari était également avec nous. Quand Abu Ayyub est passé devant l'individu qui était responsable de la distribution du butin, pour clarifier l'incident mentionné, il voulait dire par là qu'il s'était prosterné par amour pour le saint prophète Mohammed, que ce soit lui, qu'il ne s'était pas prosterné devant des pierres. Et il ne commettait aucun shirk ici, c'était plutôt l'expression de son amour. Et en ce faisant, il croyait en l'unicité de Dieu. Abu Abdurrahman Hubli raconte qu'il voyageait en mer. Abdullah bin Qais Fazari était leur émir et Abu Ayyub al-Ansari était également avec eux. Quand Abu Ayyub al-Ansari a passé devant celui qui distribuait les butins et qui surveillait les prisonniers, il a remarqué une femme qui pleurait. Il a demandé la raison de ses lamentations et on l'a informé que la femme et son fils ont été séparés. Le narrateur déclare qu'Abu Ayyub a pris la main de l'enfant et l'a placée dans la main de sa mère. Par la suite, l'individu responsable de la distribution du butin s'est rendu chez Abdullah bin Qais et l'a informé de ce qui s'était passé. Abdullah bin Qais a appelé Abu Ayyub et lui a demandé pourquoi il avait agi de la sorte. Abu Ayyub Ansari a répondu, « J'ai entendu le messager d'Allah affirmer que celui qui sépare une mère de son enfant sera séparé de ses proches par Allah le jour du jugement. » Il y a là une leçon importante pour ceux qui séparent les mères de leurs enfants. L'islam fait preuve d'une grande compassion sur de telles questions. Mais ceux qui critiquent l'islam doivent regarder leurs propres actions. Récemment, des migrants étaient aux États-Unis et ils ont été séparés les uns des autres. Et les enfants étaient séparés de leur mère. Et dans certains cas, les enfants ne pouvaient même plus reconnaître leur mère après un certain temps. Quoi qu'il en soit, l'islam affirme qu'un enfant ne doit pas être séparé de sa mère et qu'on ne doit pas les faire souffrir de cette manière. Marsad bin Abdullah raconte « Uqba bin Amir était gouverneur de l'Égypte quand Abu Ayyub al-Ansari est venu nous voir pour participer au djihad. Un jour, Uqba a offert les prières du Maghrib un peu plus tard que l'heure prévue. Sur ce, Abu Ayyub al-Ansari lui a demandé « Oh Uqba, quel genre de prière est-ce ?» Uqba a répondu, nous étions occupés. Sur ce, Abu Ayyub a répondu, je jure par Allah. Ma seule intention en disant ceci est que les gens ne croient pas que tu as vu le saint prophète, paix soit sur lui, agir de la sorte. N'as-tu pas entendu l'envoyé d'Allah dire, ma Oumma sera établie sur la vertu? Ou peut-être qu'il avait dit que ma Oumma sera établie sur la fitra, sur la nature pieuse, tant qu'elle n'offrira pas la prière de Maghrib si tardivement que les étoiles commencent à briller. C'est-à-dire qu'on doit accomplir la prière de Maghrib durant la première partie de son temps imparti. Abu Wasil raconte, « Abu Ayyub Ansari m'a rencontré, je lui ai serré la main, il a remarqué que mes ongles étaient très longues. Et il a déclaré que le saint prophète, paix soit sur lui, avait dit, « Parmi vous, il y a ceux qui posent des questions sur les choses célestes. Pourtant, leurs ongles sont longues comme les griffes des oiseaux. » Et il y a de la saleté dans leurs ongles. En d'autres termes, ils posaient des questions d'ordre savant, pourtant leurs ongles étaient longues et remplis de saleté. Et c'est pour cette raison qu'il a recommandé de se couper les ongles. Selon Musnad Ahmad bin Hanbal, Abu Ayyub avait un statut si élevé que les compagnons le consultaient pour ses avis. Ibn Abbas, Ibn Omar, Bara bin Azib, Anas bin Malik, Abu Umama, Zayd bin Khalid Juhni, Miqdam bin Mahdi, Karib, Anjabin bin Thamra, Abdullah bin Yazid Khatmi et d'autres compagnons qui avaient reçu une formation directe du Saint-Prophète, paix soit lui, profitaient du savoir d'Abu Ayyub. Parmi les tabéines, Sayyid bin Musayyib, Urwa bin Zubair, Salim bin Abdillah, Atta bin Yassar, Atta bin Yazid Laitli, Abu Salama, Abdurrahman bin Abi Layla et bien d'autres avaient beaucoup d'estime pour Abu Ayyub al-Ansari. Abu Ayyub al-Ansari avait participé au djihad sous le règne de l'émir Mouawiya. Il déclare « Je suis tombé gravement malade ». Et j'ai dit à mes compagnons que si je décédais, eh bien, ils devaient me porter et ils devaient donc combattre l'ennemi. Et lorsqu'ils allaient commencer à combattre l'ennemi, ils devaient m'ensevelir sous le sol. Il a dit, je vais vous présenter un hadith que j'avais entendu du Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui. Si ma disparition n'était pas imminente, je ne l'aurais jamais raconté. J'ai entendu le Saint-Prophète, paix soit sur lui, déclarer que quiconque meurt dans un état où il n'a jamais associé le partenaire avec Allah, eh bien celui-là entrera au paradis. Selon un autre récit, il est dit que lorsqu'il était sur le point de mourir, Abu Ayyub a déclaré « Je vous ai caché quelque chose que j'avais entendu directement du Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui. » Le Saint-Prophète avait déclaré que si vous n'aviez pas commis de péché, Allah aurait amené un peuple qui en aurait commis, afin qu'il puisse leur pardonner. Ainsi donc, Allah est toujours prêt à manifester son attribut de miséricorde et de pardon. Mohammed, un autre narrateur, relate qu'Abu Ayyub avait pris part à la bataille de Badr et il était toujours présent pour toute bataille dans laquelle les musulmans avaient combattu, sauf s'il était engagé dans une autre bataille qui se déroulait au même moment. En d'autres termes, s'il y avait deux batailles qui avaient lieu, en même temps, il était certainement présent dans l'une d'entre elles. Il n'avait pas participé dans une bataille une année parce que le commandant de l'armée était très jeune. Après cette absence, il a toujours exprimé ses regrets en disant « Pourquoi devrais-je me soucier quant au choix de celui sous lequel je dois servir ? Pourquoi devrais-je me soucier quant au choix de celui sous lequel je dois servir ? Pourquoi devrais-je me soucier quant au choix de celui sous lequel je dois servir ?» Il a répété cela à trois reprises. On raconte que Abdul Malik bin Marwan était le jeune homme à la tête de l'armée en question. Abu Ayyub est tombé malade. Yazid bin Muawiya commandait la troupe. Il s'est rendu auprès de lui et lui a demandé s'il avait des demandes à faire ou s'il avait des besoins. Abu Ayyub a déclaré que lorsque je vais mourir, eh bien portez ma dépouille sur une monture et emmenez-moi au plus loin possible dans le pays ennemi. Et si cela n'est pas possible, enterrez-moi là où vous pourrez ensuite repartir. Abu Ayyub est décédé et on a transporté sa dépouille aussi loin que possible en terre ennemie. Et il a été enterré et les soldats sont rentrés. Le rapporteur relate qu'Abu Ayyub disait qu'Allah a déclaré « Infiru khifafan wa thiqalan ». C'est-à-dire partez léger ou lourd. Infiru khifafan wa thiqalan. Il déclare que je me considère à la fois léger et lourd. Selon un récit, un homme de la Mecque a relaté que Yazid bin Muawiya s'était rendu auprès d'Abu Ayyub al-Ansari. Et celui-ci lui a dit « Transmets mes salutations aux autres et commande-leur de m'emmener avec eux le plus loin possible. » Yazid a fait part aux soldats les souhaits d'Abu Ayyub. Les soldats ont accepté de transporter sa dépouille aussi loin que possible en terre ennemie. Après le décès du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, Abu Ayyub est resté attaché au djihad jusqu'à son décès à Constantinople. Selon un récit, Yazid bin Muawiya avait mené la bataille de Constantinople en l'an 52 de l'Hégire sous le califat de son père. Abu Ayyub al-Ansari est décédé cette même année. Yazid bin Muawiya avait dirigé sa prière funéraire. Sa tombe se trouve dans la région de Byzance, tout près de la forteresse de Constantinople. Le rapporteur relate que j'ai appris que le peuple romain protégeait et entretenait sa tombe. Et lors des jours de sécheresse, il faisait des supplications pour que la pluie tombe par l'intermédiaire de sa tombe. Selon un autre récit, Abu Yazid avait participé à la bataille contre Byzance à l'époque de l'émir Muawiyah. Sous le commandement de Yazid, il est décédé à Constantinople en l'an 50 ou 51 de l'Hégire. Selon un récit, Yazid avait ordonné aux cavaliers de passer sur la tombe d'Abu Ayyub afin d'effacer les traces de sa tombe. Selon un autre récit, le lendemain du soir où Abu Ayyub avait été enterré, les Romains ont demandé aux musulmans « Que faisiez-vous hier soir ?» Les musulmans ont répondu que Abu Ayyub était un illustre compagnon de notre prophète et il était un des premiers à avoir accepté l'islam. Et nous l'avons enterré ici. Par Allah, si vous exhumez son corps, eh bien, tant que nous avons le pouvoir, vos cloches ne sonneront pas dans la péninsule arabique. Mujahid déclare que lors des jours de sécheresse, lorsqu'il jetait un peu de poussière de sa tombe, eh bien, il se mettait à pleuvoir. Ainsi donc, il existe pareil récit. Allah seul sait jusqu'à quel point ceci est véridique. Abu Ayyub al-Ansari est décédé à l'an 51 ou 50 ou 52 de l'Hégire selon Constantinople. Le plus grand nombre de récits relate qu'il est décédé en l'an 52. Sa tombe se trouve en Turquie, à Istanbul. Sa tombe se trouve sur une sorte de terrasse entourée de portes de laiton. Souvent, les Turcs s'y rendent pour trouver de la sérénité. Ici se terminent les récits sur les compagnons de Badr. Et Inch'Allah, je vais présenter les quatre califes à l'avenir. J'avais mentionné quelques points brièvement, je vais le faire en détail. De même, au début, j'avais évoqué brièvement certains compagnons. Si je reçois d'autres informations à leur sujet, je vous les présenterai. Et lorsque tout cela sera retranscrit, ces passages supplémentaires seront incorporés dans les chapitres intéressant à la vie de ces compagnons. Et ces ajouts ne concerneront que quelques compagnons. J'évoque maintenant quelques personnes qui sont décédées récemment et dont je dirigerai les prières funéraires après la prière de Jumma. Le premier défunt se nomme Abdulhai Mandal, qui était un mollim de la communauté, qui était en Inde. Il est décédé le 25 septembre 2020, à l'âge de 53 ans, des suites d'un arrêt cardiaque. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il avait embrassé l'Ahmadiyya en 1999 après avoir entrepris ses recherches. En 2003, il a été diplômé de la Jamaatul Mubashirin. Et jusqu'à son décès, il a servi la communauté en faisant beaucoup d'efforts avec beaucoup de sincérité et d'enthousiasme. C'est ainsi qu'il a servi la Jamaat pendant 17 ans. Il était très pieux, il était obéissant, il était régulier dans ses prières, il aimait la communauté et il laisse derrière lui son épouse, deux fils et deux filles. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde et qu'il réconforte également ses enfants et sa femme. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire de Mokaram Sirajul Islam, qui était mollim de la communauté Ahmadiyya de la région de Murshidabad du Bengale. Il est décédé le 14 octobre dernier à l'âge de 60 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il avait suivi une formation de mollimine de 6 mois à la Jamaatul Mubashirin de Qadian en 2002. Et jusqu'en 2020, il a servi en tant que mollim à temps partiel. Il a servi la communauté pendant 18 ans. Le défunt était une personne très sincère, pieuse, obéissante. Il était régulier dans ses prières et ses jeûnes. Il aimait la communauté. Il était un travailleur infatigable. Il laisse derrière lui sa femme et ses 3 filles. 2 de ses filles aînées sont mariées. La 3e est encore en train de faire ses études. Qu'Allah accorde son pardon et sa miséricorde au défunt. Qu'il accorde patience et persévérance à ses proches et qu'il permette à ses proches de perpétuer ses œuvres. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire de Shahid Ahmad Khan Pasha, qui était le petit-fils du Messie premier des Salam. Il était également le petit-fils de Nawab Muhammad Ali Khan. Il était le fils de son fils et il était le fils de Nawab Abdullah Hafiz Begum et de Nawab Abdullah Khan. Il est décédé le 26 octobre dernier à l'âge de 85 ans. Il était hospitalisé et il est décédé, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Par la grâce de Allah, il était moussi. Shahid Ahmad Khan Pasha, le défunt, s'était marié 2 fois. Sa première épouse était Amto Shakur, qui était la fille du 3e calife. Il avait épousé en 1962 et c'était Maulana Jalaluddin Shams qui avait fait l'annonce du mariage en raison du fait que le musulman Maud était souffrant. Il a eu 5 enfants de ce premier mariage, 2 fils et 3 filles. Ensuite, le défunt s'était marié une 2e fois en 1977 avec Samina Seyda, la fille de Feu Seyed. Ils ont eu 1 fils de ce mariage. Ce fils réside aux États-Unis. Le défunt n'était pas au service de la Jamaat, mais il avait accompagné le 3e calife lors de ses voyages à l'étranger. Et là-bas, il a pu servir le 3e calife. Selon son épouse, une des grandes qualités du défunt était sa compassion à l'égard des pauvres. Il subvenait à leurs besoins et il avait même bâti une maison pour des personnes de revenus modestes. Et il les aidait régulièrement. Qu'Allah accorde son pardon au défunt et qu'il lui fasse miséricorde. Et qu'il fasse que ses enfants soient toujours attachés à la Jamaat et au califat. La prochaine personne dont je dirigerai la prière funéraire est Syed Massoud Ahmad Shah de Sheffield du Royaume-Uni. Il est décédé le 8 septembre dernier des suites d'une crise cardiaque. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le premier Ahmadi de sa famille était son père, Sayyid Nazim Hussein, qui avait fait la Bayra sur les mains du Messie premier des Salam. À l'âge de 20 ans, en 1902, il s'était rendu directement à Qadian. Le défunt Sayyid Massoud Ahmad Shah est arrivé au Royaume-Uni en 1962 et il s'est installé définitivement à Sheffield. Lorsque la Jamaat a été établie à Sheffield, eh bien, sa résidence était le premier centre de prière. Et il a servi comme le président de la Jamaat jusqu'en 1970. De 1997 jusqu'à son dernier souffle, il a servi comme secrétaire d'Eafat. Le défunt était jovial. Il avait un grand sens de l'hospitalité. Il était gentil et il aimait servir la communauté. Il aidait les pauvres. Il était très pieux. Il avait une grande relation d'amour avec le califa. Sa fille, la docteure Aïcha, déclare que notre père a toujours tenté de nous attacher à la communauté, en particulier au califat, et il nous enjoignait de rencontrer le calife tous les 6 mois. Qu'Allah accorde patience et courage à sa fille et à son épouse, et qu'il fasse preuve de pardon et de miséricorde à son égard. Et qu'Allah le Très-Haut permette à ses enfants, à sa fille et à son épouse de perpétuer ses bonnes œuvres.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر